Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Le coût élevé du nouveau passeport biométrique en Guinée, c'est de cela dont il sera question dans la première partie de ce nouveau numéro d'Afrique 7 jours. Ensuite, dans l'Afropresse, nous serons aujourd'hui en compagnie de Claire-Marie Kostmann. Bonjour Claire-Marie.
Bonjour Carole.
Alors la presse allemande s'est intéressée, comme toujours, à divers thèmes dans l'actualité africaine cette semaine.
Oui, il sera question des attaques terroristes au Nigeria et au Kenya, qui visent notamment les amateurs de football en pleine Coupe du Monde. La presse s'intéresse aussi aux stratégies économiques de la Namibie face à son puissant voisin sud-africain. Autre stratégie, celle de la Chine qui veut redorer son image en Afrique en menant une opération séduction auprès des étudiants et des journalistes.
Merci Claire-Marie, on vous retrouve donc tout à l'heure. Et dans l'immédiat, on se rend en Guinée. La Guinée vient de mettre en circulation un nouveau passeport biométrique. Selon les autorités, ce document plus sécurisé permettra de freiner la fraude. Mais problème, pour l'avoir, il faudra débourser une petite fortune, ce qui n'est pas du goût de tous les Guinéens. Des précisions avec Abderrahmane Cissé, notre correspondant à Conakry.
500 000 francs guinéens, environ 55 euros, c'est la somme que tout citoyen guinéen doit désormais débourser pour avoir un passeport. Cette somme, perçue comme frais de dossier, est supérieure au SMIG, autrement dit au salaire minimum garanti. Ces demi-millions de francs guinéens représentent aussi la moitié du salaire mensuel des fonctionnaires les plus gradés, ce qui suscite des réactions au sein de la population. Bakary Kaba est fonctionnaire.
Il est important de rappeler que ce passeport-là, il y a un mois, il coûtait officiellement 75 000. Aujourd'hui, il est à 500 000 francs guinéens. Bon, je trouve que pour 500 000 francs, la moitié du salaire d'un cadre guinéen, je ne dirais pas que c'est trop, mais c'est une insulte à la population. Et puis, c'est un service public. Pour un service public, je pense qu'on doit essayer de fixer le prix par rapport à la partie saine du peuple, c'est-à-dire le bas peuple.
Mamadi Oulare dirige une société de pêche.
Le SMIC guinéen est à 483 000 francs guinéens, je pense. Par conséquent, il n'est pas permis pour le Guinéen moyen de pouvoir s'approprier de ce titre de voyage, qui est très important pourtant. Au-delà de ces éléments de sécurisation, pour moi, c'est vraiment un peu élevé.
Cependant, Séni Camara, membre de la société civile guinéenne, pense autrement.
Le coût de réalisation d'un passeport biométrique est plus élevé que les passeports ordinaires qui ont encore cours. Donc à 500 000 francs, la durée de vie du passeport est de 5 ans. Je pense que c'est acceptable. L'acquisition du passeport est un droit pour chaque citoyen. Mais le passeport demeure un titre de voyage, non pas une pièce d'identité classique comme serait la carte d'identité nationale.
Pour les autorités guinéennes, le lancement de ce nouveau passeport vise à sécuriser les documents de voyage. Pour l'avoir, il faut désormais remplir certaines conditions, à savoir la présence physique du demandeur, ses empreintes digitales et un interrogatoire pour vérifier s'il est réellement guinéen. De nombreux étrangers, nigériens, camerounais ou libanais, pouvaient en effet facilement s'acheter un passeport guinéen et s'adonner à toutes sortes de trafics illicites à l'étranger. Sirafa Doumbouya est économiste.
Parlant déjà de la biométrie, l'empreinte digitale sera un élément très important pour la sécurisation. Ça sera prêt au moment du dépôt des dossiers de l'interview. Ça sera effectivement contrôlé au moment de la remise du passeport au titulaire. Ça, c'est une mesure très très importante qui permettra d'éviter tout le problème que connaît aujourd'hui le passeport guinéen, à savoir que ce document de voyage se retrouve dans les mains de presque tous les ressortissants de la sous-région qui ne aucune attache en Guinée qui souhaite se procurer un document guinéen pour voyager.
Certains citoyens sont toutefois préoccupés par l'usage qui sera fait des recettes issues de la délivrance du passeport. Ils savent que la corruption a toujours existé dans les services de police chargés de la délivrance de ces précieux sésames pour tout voyageur guinéen. Le fonctionnaire Bakary Kaba fait partie de ces Guinéens qui dénoncent la corruption au sein de la police.
Les versements sont effectués sur un compte qui est domicilié dans une banque primaire de la place. Mais encore faut-il savoir qui est signataire sur ce compte. en Guinée pour ne pas que les agents de la police mettent encore d'autres subterfuges pour pouvoir escroquer le citoyen.
Cependant, la direction centrale de la police de l'air et des frontières, relevant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, indique que la police n'aura désormais qu'à gérer les questions administratives, autrement dit la paperasse. Ainsi, les demandeurs de passeport sont invités à verser directement les frais de dossier dans un compte bancaire ouvert à cet effet. Enfin, il faut signaler que le passeport biométrique sera délivré progressivement. Les détenteurs des anciens passeports en cours de validité peuvent donc les utiliser jusqu'à expiration. Adraman Cissé à Conakry pour la Deutsche Welle.
Et vous êtes bien à l'écoute de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Surtout, ne partez pas car Afrique 7 jours continue. Nous retrouvons comme promis Claire-Marie Kosmann pour l'Afropresse. Alors Claire-Marie Die Welt fait cette semaine un lien entre les attentats qui ont frappé le Nigeria et le Kenya. C'est celui du football, honni à la fois par Boko Haram et par les Chibabs somaliens.
Au Kenya, dimanche dernier, une cinquantaine de personnes sont mortes dans l'attaque de leur hôtel d'une station balnéaire. La plupart des victimes avaient regardé un match de la Coupe du Monde, note Die Welt. Les Chebab, liés à Al-Qaïda, qui ont revendiqué l'attaque, ont interdit le football dans plusieurs régions de la Somalie. Des exceptions existent, mais seulement pour les hommes, et ils doivent porter des chemises à manches longues et des pantalons. Les matchs doivent s'achever 15 minutes avant le début de la prière. Mardi, dans la province de Yobe, au nord du Nigeria, une bombe a explosé au milieu de la foule qui regardait sur grand écran un match de la Coupe du Monde de foot au Brésil. Bilan au moins 21 morts. Pour les membres de la secte islamiste Boko Haram au Nigeria, le foot est une perversion de l'Occident, en oubliant la dimension mondiale de ce sport, fait remarquer le journal. Cette attaque qui vise les amateurs du ballon rond est loin d'être la première au Nigeria. Début juin, au moins 40 personnes ont été tuées quand une bombe a explosé après un match de foot à Moubi. Début mai, une autre attaque a visé un bar où des matchs étaient retransmis, toujours dans la même ville, et à chaque fois, c'est Boko Haram qui était soupçonné, souligne Die Welt. Avec ces attaques, la secte islamiste fait régner la peur, alors que le football est le facteur le plus important d'unification d'un pays de 170 millions d'habitants aux 250 ethnies et autant de langues, poursuit Die Tageszeitung. Les fans de football sont morts à cause de leur passion. Le reportage cite l'ex-entraîneur de l'équipe nationale de football féminin, Ismaïla Mabo, pour qui le football unit les Nigérians. Quand vous regardez un match, vous vous moquez de savoir si un chrétien est assis à côté d'un musulman, si un Yoruba est assis à côté de quelqu'un qui parle Hausa. Nous sommes un. Le chercheur en sciences sociales Ousmane Mohamed va aussi dans ce sens en assurant que l'équipe nationale, les Super Eagles, sont à part. Ils doivent encaisser des défaites et arrivent toujours à se retaper. Personne ne plaisante avec cela, dit-il. Mais ils ont tout de même failli avec leur match nul face à l'Iran, alors que tout le monde prédisait la victoire, écrit le journal berlinois. Malgré tout, les fans continuent de porter le maillot des Super Eagles et presque tout le monde a une opinion sur les matchs.
Et on va parler d'un tout autre pays à présent, la Namibie, qui a retenu l'attention de la Frankfurter Allgemeine Zeitung pour sa lutte contre sa dépendance envers l'économie sud-africaine.
Une dépendance dont la Namibie veut désormais s'affranchir, nous apprend le journal. Le pays aux 2 200 000 habitants a mis au point un programme pour attirer les investisseurs étrangers, en particulier allemands, déjà très présents dans le ciment par exemple. Un programme intitulé Vision 2030 pour industrialiser le pays et diversifier l'économie, encore très basée sur les matières premières. Mais pour cela, il va falloir s'affranchir du grand voisin omniprésent, l'Afrique du Sud. Près de 80% des importations proviennent du Cap, comme l'essence. La plupart des banques sont sud-africaines et quand un Namibien est malade, il va se faire soigner à Johannesburg ou au Cap, détaille la FAZ. Mais la Namibie a aussi des avantages pour les entrepreneurs. Les troubles sociaux y sont moins nombreux qu'au Cap. Les syndicats y sont plus raisonnables, écrit le quotidien, et la corruption un peu moins présente. La Namibie accueille le plus gros investissement chinois en Afrique, 2 milliards de dollars pour exploiter une mine d'uranium. Guillaume, sa croissance tourne autour de 5 à 6% par an, mais sans pour autant créer suffisamment d'emplois, car les matières premières ne sont pas traitées sur place, mais à l'étranger. La Namibie compte sur l'extension du port de Walvis Bay pour booster son économie. Les marchandises vont continuer de rejoindre le marché sud-africain, mais la Namibie veut développer d'autres axes, assure la Frankfurter Allgemeine Zeitung, vers l'Angola et son pétrole, la Zambie et la province congolaise du Katanga pour leurs importants gisements de cuivre. Le trajet y est plus court qu'en partant de Durban. Sans oublier qu'une ligne de chemin de fer longue de 1500 km à travers le désert du Kalahari va être construite. Objectif, transporter le charbon extrait au Botswana et destiné à la Chine via le port de Walvis Bay. Le sud de l'Afrique est en train de découvrir que la dépendance à l'Afrique du Sud n'est pas gravée dans le marbre, conclut le quotidien de Francfort.
Et la Frankfurter Allgemeine Zeitung s'intéresse aussi à la politique africaine de la Chine, notamment à l'attention des étudiants.
Aujourd'hui, la Chine utilise la promotion des étudiants africains comme son soft power, son pouvoir doux ou discret, pour parfaire ses engagements économiques sur le continent et améliorer son image, écrit le journal. Cela participe à une stratégie globale. La Chine ne veut plus seulement investir dans les routes et les mines, mais aussi dans les lieux de loisirs et de sport en Afrique. Fin 2013, selon les chiffres officiels, 33 000 étudiants africains étaient en Chine, soit environ un cinquième du nombre total des étudiants étrangers en Chine. L'an prochain, Pékin compte proposer 18 000 bourses de plus à l'attention des étudiants africains. L'opération séduction ne s'arrête pas là. La Chine offre des séminaires pour les représentants des gouvernements des États africains. Les journalistes sont aussi des cibles de choix. L'Université des sciences de la communication de Beijing propose un master d'une année pour les journalistes africains afin qu'ils puissent en savoir plus sur la vraie Chine, rapporte la Frankfurt Allgemeine Zeitung. Jusqu'ici, 42 journalistes de 19 pays africains y ont participé. Selon le président de l'université, les journalistes sortent de là avec la capacité de propager des faits objectifs sur la Chine.
Merci pour cette revue de presse et merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de ce magazine. C'est déjà l'heure de se quitter. Au micro, c'était Claire-Marie Kostmann et Carole Assignon. Et si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site www.dw.de/français. Très bonne suite de programme sur la Deutsche Welle.